Nous allons maintenant non plus parler de la faute des civilisations, mais de la civilisation contre les civilisations, avec mon collègue Henri Laurence, qui est donc professeur ici au Collège de France depuis 2003, sur la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Et Henri Laurence est arrivé au Collège après avoir enseigné à la Sorbonne et à l'INALCO. Il a également été directeur scientifique de l'Institut français du Proche-Orient. Et au sein d'une abondante bibliographie, j'épinglerai les 4 tomes de ses Orientales, réunis donc en une seule édition en 2019 aux éditions du CNRS. Et je le remercie d'avance de nous éclairer sur justement la problématique qu'on posait à l'issue de l'intervention de Céline Spector, à savoir le rapport entre le singulier et le pluriel quand on parle de civilisation. Merci Henri.
Merci. En fait, j'aurais dû appeler mon texte « De la civilisation aux civilisations » plutôt que « Contre les civilisations ». Mais c'est quand on passe à l'écrit qu'on se rend compte de ce que l'on fait. Alors là, maintenant, on provient à l'histoire, ce qui me permet d'être dans la continuité des interventions qui étaient fondée sur d'autres disciplines. Alors, la première partie de mon exposé sera condensée, parce que d'une part, ça recoupe l'exposé de Madame Spector, et d'autre part, comme j'ai fait trop long, comme d'habitude, je suis obligé de résumer au moins pour la première partie. Alors, la première idée, ce qu'on a appelé les grandes découvertes, ce qui est évidemment un peu choquant pour les gens qui existaient avant d'être découverts, c'est qu'il y a une nouveauté dans l'histoire, donc disons au XVIe siècle, c'est l'invention, l'apparition des empires ultramarins, ce qui donne à l'Europe une connaissance de ce qui n'est plus son environnement immédiat, le monde de l'islam, mais d'autres environnements américains, asiatiques. On va en Inde, on va en Chine, on va au Japon, etc. Ceci combiné à l'immense travail d'accumulation des connaissances permis par l'imprimerie se retrouve évidemment dans les Lumières. Alors, si on prend la typologie, disons, des gens au début du XVIIIe siècle, on voit que l'espèce humaine, l'humanité, est divisée d'abord en une tripartition qui a déjà été indiquée, enfin une bipartition qui a été indiquée ce matin, mais en fait c'est une tripartition. L'humanité se divise en sauvages, ce que nous appelons aujourd'hui les chasseurs-cueilleurs, en barbares, ce que nous appelons aujourd'hui les éleveurs, puisque pour les gens du XVIIIe siècle, les barbares sont essentiellement les peuples des steppes, comme cela a été indiqué tout à l'heure, et aussi les orientaux. Les orientaux sont ceux qui ne sont pas européens, mais qui sont civilisés, puisque le terme de civilisé est utilisé bien avant le terme de civilisation. Alors, je passe sur le fait que l'expansion européenne en Amérique a été construite comme une projection de l'Europe, un dédoublement de l'Europe, comme le montre le vocabulaire, Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Espagne, New York, Nouvelle-Amsterdam, ainsi de suite, même si, évidemment, le dédoublement de l'Europe n'est pas possible et qu'on crée de nouvelles sociétés. Alors, comme on l'a indiqué tout à l'heure, l'émergence du mot civilisation lui-même est dans une logique de mouvement de l'histoire, c'est-à-dire de progrès de l'esprit humain, qui est caractéristique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le mot civilisation est absent chez Montesquieu, Voltaire et Rousseau. On a fait des fausses attributions parce que des éditions du XIXe siècle ont mis le mot civilisation dans des sous-titres, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'est même pas chez Turgot, et donc c'est bien évidemment Mirabeau, comme on l'a vu tout à l'heure. Et dès lors, va se passer une combinaison de deux choses extrêmement différentes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'une part, vous avez la notion de progrès de l'esprit humain, et d'autre part, un basculement géopolitique. Dès 1750, on a le sentiment que l'histoire européenne du Nouveau Monde est terminée et que l'Europe va se tourner vers l'Ancien Monde. Ceci s'explique sur deux choses. D'une part, la France perd le Canada dans la guerre de 7 ans, mais d'autre part, l'Inde, à la bataille de Plassey en 1757, montre qu'une petite armée encadrée d'officiers européens peut détruire toutes les armées asiatiques. Et donc l'Angleterre fait la conquête du Bengale et donne le signal d'une réorientation de la colonisation européenne, de l'expansion européenne vers l'autre monde. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire sur le mode américain. On ne peut pas se dédoubler et on ne peut pas christianiser des gens qui sont indiens, musulmans, chinois, etc. D'où toute une discussion qui a lieu dans les années 1770-1780, qui est comment aller vers l'Orient, en quelque sorte, en modulant de façon autre l'expansion européenne. Et le mot civilisation n'est pas vraiment encore utilisé à ce moment-là, c'est qu'on a surtout l'idée que l'Orient devient brusquement un passé dans le présent. C'est-à-dire que ce que nous voyons en Orient, disent les voyageurs vers 1780, c'est ce que nous étions il y a quelques siècles. Mais la corollaire, c'est par exemple chez Condorcet, c'est que si l'Orient est un passé dans le présent, l'Europe est le futur de l'Orient. Et donc cette double opération se fait entre 1770 et 1790. Alors le terme le plus utilisé à l'époque, c'est celui des sciences et des arts. C'est le terme beaucoup plus que civilisation, c'est la marche des sciences et des arts. Et dès 1780 se met en place ce que j'ai jadis appelé le club méditerranéen de l'histoire de la civilisation. Le club méditerranéen, c'est que les sciences et les arts sont nés en Égypte sous forme de sagesse. Ensuite, ils sont passés aux Grecs et aux Romains sous forme de civisme, puis aux Arabes sous forme de science, et ensuite l'histoire de l'Europe et la récapitulation inverse, c'est-à-dire que les sciences sont arrivées par les Arabes, que nous arrivons au civisme, c'est-à-dire à la Révolution française. Ça explique la vogue de Plutarque dans les années 1770-80, dans la génération qui va faire la Révolution française. Et au-delà, on va retrouver la sagesse, ce qui sera l'un des sens très nombreux de l'expédition d'Égypte, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Alors, le résultat, c'est qu'il y a une nouvelle idée coloniale que l'on perçoit déjà dans le livre de Reynal sur l'histoire philosophique et politique des établissements du commerce des Européens dans les deux Indes, où déjà le transfert de l'ancien monde du nouveau monde vers l'ancien monde est opéré, et surtout chez Reynal apparaît à deux endroits, mais c'est aussi un discours général, l'idée de libération des peuples. La première idée de libération des peuples, c'est libérer les Indiens des Anglais. Et donc, il faudrait peut-être que les Français, éventuellement, aillent libérer l'Inde de la domination britannique. Alors, c'est tous les contacts avec Tippu Saïb, etc., le rôle d'Anquetil du Perron sur ce point. Et puis, l'autre idée, c'est qu'il faudrait qu'on libère les Maghrébins de leur pouvoir maghrébin pour les civiliser, le terme pas encore utilisé, et en plus, ils seront reconnaissants qu'on les libère de leur domination insupportable. Et ça, c'est donc chez Reynal Diderot, puisque c'est un écrit à demain. Alors, on passe à l'entrée en politique de l'idée de civilisation sous la Révolution française. Mais le mot clé de la Révolution française n'est pas encore civilisation, c'est régénération. Et vous avez sur cette gravure la fontaine de la régénération qui a été installée à la place de la Bastille. Et la régénération est représentée par un symbole égyptien, la déesse Isis. Et donc, c'est la célébration du 20 août 1793 que vous voyez sur cette gravure. Et le mot-clé essentiel de la Révolution française, de 1789 à 1795 à peu près, c'est régénération. Ensuite, le mot s'efface progressivement du discours révolutionnaire français. Alors, j'ai posé la question à Clément Martin, qu'est-ce qu'il en pensait, pourquoi le mot s'effaçait. Il m'a dit, pas tout simplement parce que le programme est en train d'être réalisé. Et donc, on n'a plus besoin de le dire parce qu'on est passé aux actes. Et en tout cas, à partir de 1795, sur ce qu'on appelle plus ou moins à tort les thermidoriens, l'idée est que la Révolution française devient universelle. Et elle devient universelle d'abord en Europe sous la forme des républiques sœurs, italiennes, hollandaises, la République batave, la République... Et puis ensuite, sous la forme de l'expédition d'Égypte. Et l'expédition d'Égypte et la civilisation en marche, puisque le... Alors, vous voyez d'abord le frontispice de la description de l'Égypte qui montre très bien ça. En haut, je n'ai pas de pointeur, malheureusement. Sur le haut, les dames qui sont derrière le Bonaparte à cheval à poil, ce sont les sciences et les arts. Le bon Bonaparte à cheval, de façon son char, et en face de lui, les barbares orientaux. Bon, c'est une gravure de 1815-1820, mais ça montre toute l'idéologie de l'expédition. Mais l'expédition d'Égypte est une autre gravure. Merci. Une autre gravure le montre ici. C'est la même à peu près que celle qui a été montrée à l'instant. L'expédition d'Égypte, c'est le combat pour la domination du monde entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, vous voyez, cette bataille à coups de poing entre l'anglais et le britannique. Alors, en 1798, le mot « civilisation » entre pour la première fois au dictionnaire de l'Académie française. Action de civiliser ou état de ce qui est civilisé. Ça, c'est le magnifique problème des définitions de dictionnaire. Mais surtout, il entre dans l'histoire le 4 Messidor en 6, 22 juin 1798, dans l'ordre du jour de le général Bonaparte, à la veille du débarquement à Alexandrie. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Et à partir de ce moment-là, le mot civilisation entre périodiquement dans le discours, y compris chez les officiers, comme se montre ce toast du 13 Vendémiaire en 7, 4 octobre 1798, dans un banquet républicain, à la civilisation de l'Égypte. Nous donnons au monde le premier exemple d'un législateur conquérant. Jusqu'à nous, les vainqueurs avaient toujours adopté les lois des vaincus. Remportons sur eux le triomphe de la raison, plus difficile que celui des armes, et montrons-nous autant supérieurs aux autres nations que Bonaparte l'est de Genghis, c'est-à-dire de Genghis Khan. Alors, je passe ensuite, le mot civilisation est un mot-clé des idées napoléoniennes. Vous le trouvez périodiquement dans les déclarations impériales, par exemple au moment du blocus continental. Il sert de justification à la conquête de l'Espagne et de l'Italie du Sud, parce que déjà ces régions sont considérées sous-civilisées en quelque sorte par rapport à la France. Et déjà, en 1812, la campagne de Russie est une guerre de la civilisation contre la barbarie russe. Et là, ça nous ramène à l'autre point essentiel, l'interrogation des Lumières sur la Russie. Je n'apprends rien à certains ici, évidemment. Voltaire fait de Pierre le grand héros civilisateur, sans le mot, évidemment. Tandis que Rousseau dit que ce qu'ils ont fait, c'est un plaquage et que la Russie est en train de perdre en quelque sorte son âme et sa personnalité. D'où ensuite la réaction allemande à la domination napoléonienne. Réaction allemande qui va être un discours contre la civilisation, puisque la civilisation, c'est la France. En quelque sorte. Alors, c'est Madame de Staël qui est dès 1810 dans De l'Allemagne énonce à la France ce qui est en train de se produire en Allemagne. C'est un livre extraordinaire, de l'Allemagne qu'il faut absolument relire parce que c'est tellement riche ce livre. Et elle montre très bien que la réaction à l'universalisme français et à la pensée de Lumière se trouve exprimée par l'affirmation que l'activité humaine en général et l'art en particulier se comprennent comme expression d'une personnalité individuelle qui elle-même trouve sa place dans une personnalité collective. Cela conduit à l'universalisation du relativisme. Chaque personnalité collective a son propre développement. On se trouve ici aux origines du populisme, pris dans le sens de l'exaltation du peuple, surtout paysan, qui a conservé l'authenticité par rapport à la corruption des élites, surtout urbaines, qui ont adopté des mœurs étrangères dites civilisées. Le mot allemand de culture est d'abord un emprunt au français dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il est alors largement synonyme de civilisation. Néanmoins, il va tendre à définir la spécificité de chaque personnalité collective, ce qui va différencier la culture de la civilisation, si on compte qu'il existe encore aujourd'hui des centaines de définitions du mot culture et du mot civilisation. C'est que la culture est un essentialisme qui retournait vers le passé, tandis que la civilisation est orientée vers l'avenir, enfin le processus des civilisations est orienté vers l'avenir, une amélioration constante de la société. Alors évidemment, il existe des tas d'autres définitions du terme, mais je pense que la distinction culture-civilisation vient dans la flèche temporelle qui est utilisée. Alors l'étape suivante, c'était Madame de Staël, quand même, il faut la montrer. L'étape suivante, évidemment, c'est Guizot dans l'histoire générale de la civilisation en Europe. Texte absolument essentiel qui sera très rapidement traduit dans des langues comme le turc et l'arabe et qui aura une énorme influence justement à l'extérieur de l'Europe. Et donc dans ses leçons, c'est lui qui dit « Quand on regarde aux civilisations qui ont précédé celles de l'Europe moderne, soit en Asie, soit ailleurs, y compris même la civilisation grecque et romaine, il est impossible de ne pas être frappé de l'unité qui y règne. Elles paraissent émaner d'un seul fait, d'une seule idée. On dirait que la société a appartenu à un principe unique qui l'a dominé et en a déterminé les institutions, les mœurs, les croyances, en un mot, tous les développements. » Il y a la civilisation européenne qui est définie par la dynamique du changement et les civilisations non européennes par une essence statique. Alors, c'est là où on passe progressivement, entre 1815 et 1840, de la civilisation au singulier aux civilisations au pluriel. Alors, on peut chercher, en faisant différents sondages, le plus simple, c'est d'aller voir chez nos amis les orientalistes, c'est-à-dire chez Jules Moll, qui donne une synthèse annuelle des travaux orientalistes dans le monde à la Société asiatique de Paris, à partir de 1840. Donc, en 1840, il utilise les foyers de civilisation des grandes nations, que sont les Arabes, les Persans, les Indiens, les Chinois. Les autres peuples orientaux leur ont emprunté leurs idées. En 1842-43, Jules Moll évoque la civilisation arabe et la civilisation chinoise. Il parle des écoles anglaises aux abords de la Chine, où on enseigne aux jeunes Chinois les lettres chinoises, selon la méthode de leur pays, et les lettres anglaises selon les méthodes européennes. L'on forme naturellement de cette manière une classe d'hommes qui sont naturellement destinés à servir d'intermédiaires entre deux civilisations. Donc le passage au pluriel, il est clair, il est net, c'est aux alentours de 1840. Et de l'usage des orientalistes, ça va ensuite se généraliser au discours suivant. Alors, il faut dire que l'expansion européenne est aussi une expansion culturelle. D'abord, l'archéologie. Au XIXe siècle, tous les 20 ans, on découvre une civilisation ancienne. Champollion, les années 1820, c'est le déchiffrement des hiéroglyphes qui met fin à la sagesse des Égyptiens antiques. 1840, déchiffrement du cunéiforme. 1860, découverte des Hittites, des Cimériens, des Minoéens, etc. Du coup, des millénaires d'histoire qui étaient jusque-là inconnus ou à peine soupçonnés deviennent fréquents. D'où la notion de civilisation ancienne, qui est le titre d'un grand nombre d'ouvrages de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, cela dit, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'après le parcours méditerranéen, on a le parcours arien. Alors, c'est né de la découverte de la parenté des langues indo-européennes entre elles à la fin du XVIIIe siècle, repris ensuite par les universités allemandes qui supposent l'existence d'un peuple qui s'était étendu de l'Inde à l'Europe, et tout simplement les Allemands l'ont appelé les Indo-Germains, et du coup les Français n'étaient pas contents de que ce soit Indo-Germanique, donc ils les ont appelés Indo-Européens ou Ariens, mais pour pas que ce soit germanique, justement. Alors, je passe sur la complexité de la naissance des théories raciales au XIXe siècle, mais il faut faire une distinction fondamentale que l'on fait rarement, c'est que les orientalistes définissent des races en fonction de critères linguistiques et non pas de critères biologiques, et que ce ne sera que dans la seconde moitié, voire le dernier tiers du XIXe siècle, qu'on basculera vers une anthropologie physiologique avec la craniologie, Broca, etc. Donc les distinctions entre européens, ariens d'un côté et sémites de l'autre sont des distinctions linguistiques, la langue contenant un univers et donc potentiellement toute la culture de toute une civilisation ou de tout un monde en soi. C'est le discours de Renan dans ces lieux. Alors, en même temps, civilisation se double d'un terme supplémentaire qui est civilisation moderne. La civilisation moderne, c'est positif parce que c'est la liberté de penser, c'est le progrès économique, c'est le progrès social, c'est l'hygiène, mais c'est aussi la stéréotypie, la vulgarité, etc. Le mot modernité apparaît en français en 1833 chez Chateaubriand. La vulgarité, la modernité de la douane et du passeport contrastaient avec l'orage, la porte gothique, le son du cor et les bruits du torrent. Donc, vous voyez là l'opposition, la définition de la modernité comme étant la vulgarité moderne et administrative. Alors, ça explique pourquoi le pape de Rome condamne dans le syllabus la civilisation moderne, qui est le libéralisme. Mais en revanche, les missions catholiques dans le monde se font les héros de la civilisation chrétienne et vont dire que toute la civilisation est un produit du christianisme. D'où vous avez en fait un conflit entre laïcs et religieux pour savoir à qui appartient la civilisation à travers le XIXe siècle. Alors on peut avoir quelque chose d'assez exceptionnel comme la guerre de Crimée, où vous avez ainsi sur cette médaille la reine Victoria, l'empereur Napoléon III et le sultan Abdelmejid, qui sont protégés par Dieu et défenseurs de la civilisation, évidemment, contre l'ennemi russe et orthodoxe. C'est quand même assez typique de la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, civilisation et différence, il y a déjà, dès la fin du XIXe siècle, la peur du retour, du choc en retour, qui se manifestera jusqu'à aujourd'hui par le danger, en particulier de la péril jaune. Alors, puisque le Collège de France fait de la bande dessinée, je me permets quand même de donner Edgar Pierre Jacob, Secret de l'Espadon, où les Tibétains détruisent la civilisation occidentale, ceci dans le second après-guerre. Alors, tout le débat de la seconde moitié du XIXe siècle sera est-ce que la civilisation occidentale ne fait qu'un simple plaquage sur les civilisations ou est-ce que ces civilisations sont en train de s'occidentaliser ? Alors, c'est le problème de la famille Fenouillard quand elle se rend en 1889 au Japon. D'abord, elle s'habille de vêtements japonais, pour ne pas se distinguer des autochtones, ces peuplades sauvages et peu civilisées, dit le texte. Mais le problème, c'est que ces peuplades sauvages semblent singulièrement civilisées. Et en revanche, M. Founeyer a retriomphe parce qu'il y a quand même des indigènes qui portent l'habit indigène et pas l'habit européen. Alors, ce passage tout à fait caractéristique de la famille Founeyer est en fait tout le problème du regard des Européens par rapport à des sociétés qui sont de facto en train de s'occidentaliser dans la seconde moitié du XIXe siècle. Alors, ça donne le sens, d'une part, de la mission civilisatrice française, qui pense que les indigènes vont accéder à l'universel par le biais de la culture française, donc par un mécanisme d'assimilation, par rapport au différentialisme britannique, qui, lui, pense que les indigènes devront mijoter dans leur jus pour accéder progressivement à la modernité. Et c'est donc la différence entre la mission civilisatrice et le fardeau de l'homme blanc, même si les choses se brouillent ensuite après la Première Guerre mondiale. Alors, je rappelle que la Première Guerre mondiale, c'est la grande guerre pour la civilisation contre la barbarie germanique, comme le montrent ces médailles. On peut citer ici notre ami Bergson, qui est là en 1914, il faut que je retrouve la citation, voilà. À l'Académie des sciences morales et politiques, donc Bergson, la civilisation avait déjà connu sur tel ou tel de ses points des retours offensifs de la barbarie, mais c'est la première fois que toutes les puissances du mal se dressent ensemble, coalisées, pour lui donner assaut. Ça, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est tout le discours. Et les Allemands sont justement traumatisés parce qu'on les renvoie à la barbarie. Et c'est un des mécanismes du traumatisme allemand de la Première Guerre mondiale et au-delà. Alors, vous savez tous, évidemment, que la Première Guerre mondiale a engendré un discours sur les civilisations. Valéry, évidemment, Spengler, et un peu plus tard, Toynbee, dans Study of History, qui fait une véritable anatomie comparée des civilisations. Mais en même temps, ces civilisations qui étaient réservées aux Orientaux sont maintenant élargies aux catégories qu'on définissait jadis comme sauvages. Donc, par exemple, on parle de civilisation négro-africaine dans l'entre-deux-guerres. On parlera de philosophie bantoue, etc. Alors, je galope toujours, vous m'excuserez, mais vous comprendrez qu'après 1945, la notion de civilisation est d'abord en crise et on va mettre à la place « développement », terme qui est apparu au début du XXe siècle, mais qui ne s'impose là. Donc, on n'aura plus peuple civilisé et non civilisé, on aura peuple développé et peuple sous-développé. On n'aura plus civilisation, mais on aura développement. L'enjeu, donc, c'est le tiers-monde, qui est en quelque sorte l'ancien domaine oriental et sauvage, plus l'Amérique latine, dont on ne sait jamais s'ils ont été civilisés ou pas, mais ça, c'est un autre problème. Alors, Brodel était intéressé par l'idée de civilisation qu'il définissait avant tout comme une structure de longue durée qu'il pouvait opposer à l'anthropologie structurale. Il lui donne plusieurs grands traits spécifiques, une étendue géographique, une continuité historique, une vision du monde en évolution lente ou rapide qui fait qu'une époque historique, aujourd'hui on dirait un chronogramme, est en soi une civilisation, la civilisation de la Renaissance, la civilisation de l'Europe classique, enfin pour des livres bien connus. C'est ce qui persiste, la civilisation, c'est ce qui persiste à vivre tout en acceptant de changer. C'est une personnalité collective, un personnage historique. Alors, ce qu'il faut admettre aujourd'hui, c'est que les civilisations impériales ont accepté le terme. et même le défendre de bec et ongle. Aujourd'hui, le discours de la Chine, de l'Inde, du Japon, surtout de la Chine et de l'Inde, c'est un discours « nous avons notre civilisation, nous avons nos valeurs, nous sommes différents de l'Occident et les droits de l'homme, ça ne concerne que les Européens ou les Occidentaux, ça ne nous concerne pas ». Donc il faut bien considérer que c'est un terme qui a été largement réinvesti, y compris sous forme d'essentialisme, par les courants politiques contemporains des domaines civilisation. Alors, je dirais en conclusion que il n'en reste pas moins que si les civilisations sont des structures de longue durée, elles conservent la mémoire de la douleur infligée par la civilisation. Aujourd'hui, l'Asie la vit plutôt sur le mode de la revanche. Quand Mittal achète la sidérurgie européenne, c'est une revanche. Le monde musulman le vit sur le monde du ressentiment, très largement. L'islamisme, c'est une forme formidable, enfin formidable au sens terrifiante, de ressentiment. Et l'Afrique le ressent comme une humiliation qui est largement quotidienne. Ce petit tableau vient du Musée des Arts de Johannesburg et dit tout de ce rapport sur civilisation. Je vous remercie.